Donc avant de commencer cet enseignement, Rinpoche nous demande de développer l'attitude d'esprit qui est tournée vers l'éveil, qui est l'attitude de la bodhicitta. Qui pense, puis-je établir tous les êtres qui sont aussi vastes que l'espace dans l'ultime libération de tous les Bouddhas. Et pour ce faire, je dois même m'efforcer de pratiquer le Dharma au moyen des trois aspects de la connaissance que sont l'écoute, la réflexion et la méditation. Et parmi les nombreux moyens qui permettent d'atteindre la libération, il y a des moyens rapides et il y a des moyens plus longs, les moyens les plus rapides étant contenus dans les enseignements que l'on appelle le Vajrayana secret. Et le Vajrayana, ou disons le Vajrayana secret, est défini par trois aspects qui sont le point de vue, et c'est le point de vue ultime ou le point de vue profond, la méditation profonde et la conduite ou l'action profonde. Et ces trois niveaux de réalisation ultime sont très difficiles à réaliser.
Tenez.
Donc l'omempa yina tene
l'omempa
l'omempa yina yang
ah
je vous t'auto gué
l'omempa nam je tava samu gomba samu chepa samu hien yang tom topa tan tom ma tom ne tene lok ta te son chi si gué yore ti sen na l'omempa nam na sang sang gu gué yore Dice na sanga se.
O consola la orena.
La gogo ndo se madox. Gogo madox.
Rire. Et donc ces enseignements ne sont pas donnés aux disciples ou aux êtres de capacité inférieure, de capacité ou d'intelligence inférieure. Ces enseignements ne leur sont pas donnés car peuvent être dangereux. Et en ce sens-là, ces enseignements c'est pour la raison pour laquelle ils sont appelés secrets. Car ils sont cachés à ceux qui n'ont pas les capacités nécessaires et requises pour pouvoir les pratiquer. Et donc, en résumé, on peut dire que le Vajrayana est la technique ultime, ce sont les techniques supérieures et suprêmes, et les moyens, l'ensemble des moyens les plus rapides pour atteindre la libération.
Et
Et quelle est l'entrée ou quelle est la porte, le moyen d'entrée dans cette tradition du Vajrayana? La première condition pour pouvoir y pénétrer, c'est tout d'abord une confiance solide, profonde. Et car si l'on n'a pas cette confiance ou cette foi profonde, l'on peut devenir un récipient inapproprié, c'est-à-dire qu'on sera un réceptacle inapproprié pour ces enseignements du Vajrayana. Et le fait d'avoir confiance et d'avoir de la foi dans ces enseignements du Vajrayana, c'est le signe pour un disciple qu'il est un réceptacle ou un récipient approprié, et c'est un signe qu'il a les capacités de le pratiquer. Donc le premier signe de cette possibilité d'entrer dans le Vajrayana, c'est la foi et la confiance. Et car si l'on peut prendre ça dans l'autre sens et dire que si quelqu'un n'est pas un récipient approprié, il ne pourra pas développer la foi et la confiance nécessaires à la pratique du Vajrayana. Et parmi ces différentes classes ou différentes catégories d'êtres qui ont les capacités, qui ont la foi nécessaire et qui ont les capacités de pratiquer le Vajrayana, il y a encore trois niveaux que l'on peut déterminer, qui sont les niveaux inférieurs, moyens et supérieurs. Et pour les individus de capacité supérieure, ils peuvent recevoir le maître ou le lama peut leur transmettre directement les enseignements du Vajrayana au niveau de donc du point de vue profond, la méditation profonde et l'action profonde, ils peuvent les recevoir directement et les réaliser directement. Ils seront donc capables de réaliser directement donc ces trois points, ce point de vue, cette méditation et cette action. Et par contre, pour les deuxièmes sortes d'individus, c'est-à-dire les individus de capacité moyenne, il est possible de. Il faut que le lama donc les conduise dans ce qu'on appelle la voie des moyens, tablam, c'est-à-dire les différentes techniques, et qui leur permettront progressivement de réaliser donc ces trois aspects qui sont le point de vue philosophique profond, la méditation profonde et l'action profonde grâce à cette voie des moyens. Par contre, pour les individus de capacité moindre, donc les individus susceptibles de pratiquer le Vajrayana mais de capacité moindre, il leur faut suivre la voie progressive en commençant par ce qu'on appelle les véhicules inférieurs, si l'on peut dire, c'est-à-dire la voie des Shravaka, puis la voie des pratiques à Bouddha, et en s'appliquant à chacune de ces étapes, aux différentes pratiques, au niveau du point de vue, la compréhension philosophique, au niveau de la méditation et au niveau de l'action, de la conduite, progressivement, le maître peut les les amener à la pratique du Vajrayana et progressivement à la réalisation. Et par exemple, le tantra, le Evajra Tantra, le tantra des Vajra, est un enseignement qui est progressif et qui explique ou qui montre la voie graduée dans la troisième aspect que nous avons vu, la troisième approche, c'est-à-dire depuis les voies les plus basses, telles que la voie des Shravaka, jusqu'au tantra. Donc dans cette approche, en quoi consistent grossièrement ces différentes approches progressives? On peut dire que la première approche, c'est l'approche des Shravaka, et elle consiste principalement dans la reconnaissance du non-soi, la donnée d'existence d'un soi dans les agrégats, dans les cinq agrégats. Et cette méditation, donc, est donnée aux disciples au niveau donc de la compréhension philosophique, au niveau de la méditation, au niveau de l'action. Et lorsqu'il a compris cette étape, l'on passe au deuxième point de vue philosophique, qui est le point de vue philosophique de ce que l'on appelle les chichamacha, c'est-à-dire la théorie de l'esprit seulement. Et Semsangi Tawa, c'est là
Nidong Tekonan.
Nidong Tekonan. Ce qu'on appelle la téléité ou la reconnaissance de la téléité de l'esprit qui perçoit et de l'objet perçu. Donc ceci c'est le point de vue des Chichamatra, l'esprit seulement, ce qui est le deuxième point de vue philosophique du bouddhisme, si on fait une progression. Et lorsque le disciple donc a une certaine expérience et une certaine compréhension de ce point de vue, donc de la non-existence ou de la téléité, de l'unicité de l'objet perçu et de l'esprit qui perçoit, progressivement donc le lama lui enseigne la troisième voie qu'on appelle le Madhyamika, la voie du milieu. Umetawa, c'est là, quelle est?
Umetawa. Ça
sonne. Umetawa, dene quelle est? Quelle est son? Umetawa.
Umetawa, qui est quoi?
Le démato. Donc le lama lui enseigne la voie du Madhyamika, et lorsque celui-ci a une certaine expérience dans la méditation du Madhyamika, le lama peut lui enseigner donc la voie des tantras, et progressivement, il y a encore différentes classes de tantras, jusqu'à l'insurpassable tantra, le Anuttara Tantra, qui est le tantra le plus haut. Donc progressivement, il suivra toute cette progression, cette voie graduée, si vous voulez, au niveau de sa compréhension et de son expérience. Et donc cette voie graduée a l'avantage que les enseignements sont donnés sur la compréhension et sur l'expérience de la voie précédente. C'est-à-dire que une fois que l'on a la compréhension du premier point de vue, par exemple, du point de vue des Shravaka, il est plus facile d'étayer sur cette base, d'étayer la compréhension des Chichamacha, par exemple, ou du Madhyamika. Donc c'est une voie graduée, une voie progressive, qui s'appuie à chaque fois sur l'expérience et sur la compréhension de la précédente.
Tene gomba remjo de karresena, tambo, kanzak dame pa gom, tene rembe taberemba, tambo hi gore te yendo, te daga conde, ton te da, rembe gom na, tene gom hi, te gomba remjo.
Donc, en même temps que le disciple étudie ces différents points de vue philosophiques, donc de ces différentes écoles, en même temps, il reçoit des enseignements de méditation, et non seulement donc on lui demande une compréhension théorique des enseignements, mais aussi une pratique et les méditations qui sont liées à ces différents points de vue philosophiques. Donc à chaque école philosophique correspond des méditations très particulières que le disciple donc doit aussi expérimenter et méditer.
Tela tenpa yagpo thob ne ome logje tene pyoba da trabe tongpa nye gom tene tonye tura la tene gom tenpa yagpo chona tene sa joy, joy joy, nam joy log nam joy joy somje tene gom samayore taso gom na tehi jesu tene sanal lami je gom jana tene gom dan nawa menpa yagpo yon.
Et donc lorsque le disciple donc commence donc par méditer sur le premier type de méditation qui correspond aux méditations des Shravaka, qui est la méditation sur le non-soi, la reconnaissance du non-soi dans les agrégats. Lorsque le disciple arrive à une certaine expérience dans sa méditation, il peut passer au deuxième type de méditation qui est la reconnaissance de la non-distinction entre l'esprit perçu, l'esprit qui perçoit, et l'objet perçu, la non-distinction. C'est ce qu'on appelle donc l'esprit seulement, le chichamacha, la non-distinction entre esprit qui perçoit et objet perçu. Progressivement, donc, il méditera sur ce thème, et lorsqu'il en aura une certaine compréhension, il pourra méditer sur le niveau supérieur, qui est le niveau du Madhyamika. Dans ce niveau du Madhyamika, l'on médite sur les différentes approches de la vacuité, et tous les phénomènes sont dénués d'existence propre, sur la vacuité de tous les phénomènes, jusque ce que l'on appelle en tibétain chochal, c'est-à-dire au-delà de toute conceptualisation, qui est, si vous voulez, le niveau le plus haut dans le Mahayana, le niveau le plus haut de la compréhension de la vacuité, c'est l'expérience de l'absence de toute conceptualisation. Et une fois que l'on a étayé cette méditation et que l'on commence à avoir une certaine stabilité dans cette méditation, l'on peut progressivement recevoir les enseignements des différents tantras, à commencer par kriya, upa, yoga, et jusqu'au l'insurpassable anuttara tantra, c'est-à-dire le tantra le plus haut. Donc je pense que si l'on fait vraiment ce chemin progressivement, c'est le meilleur moyen d'étayer sa pratique de façon solide, et il ne peut pas y avoir d'erreur ou on ne peut pas se tromper dans cette approche.
Tene ta kyo pa remjo de karresana kyo pa yan tambo nin tu te kyo pa che pa ne zonde tene ala mi je pa che kyo pa tso kyo pa ma da pa che pa yore tene oma oma che de koma koma lenjo na.
Et de la même façon, donc, le troisième niveau, troisième approche, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure l'action ou la conduite. Et pour chacune de ces écoles ou de ces approches philosophiques et méditatives correspond une approche de la conduite ou de l'action ou de l'attitude, on pourrait dire. Et de la même façon, donc, il faut pratiquer chacune de ces étapes. À chaque étape correspond une attitude, une façon de vivre, une action, un type d'action, un type de discipline ou de conduite. Et donc, toujours selon le Evajra Tantra, le Tantra d'Evajra, il est expliqué que, au niveau de la conduite, pour les débutants, il faut commencer par les vœux de Sojong. Et ces vœux de Sojong étant des vœux, ce qu'on appelle les vœux de Niné, c'est-à-dire les vœux que l'on prend pour 24 heures, les 8 vœux du Mahayana que l'on prend pour 24 heures. Donc ceci, c'est le point de départ de la conduite au niveau des Nyentege, qui est le... Donc, ce qu'on appelle les vœux de Nyéné que l'on prend, qui correspondent au point de vue philosophique et à la méditation des
Shravakas.
Okay. Donc, en fait, ce ne sont pas les huit vœux du Vajrayana, ce sont justement des Mahayana. Parce qu'on les appelle tous les deux les vœux de Sojong, mais il y a effectivement les huit vœux de Sojong du Mahayana et les huit vœux de Sojong des Shravaka. Donc ici, on ne parle uniquement que les huit vœux de Sojong des Shravaka. Et donc ces vœux sont pris en général pour 24 heures. On les prend un matin avant le lever du soleil et on les prend donc depuis cet instant, depuis ce moment, jusqu'au lever du soleil le lendemain matin. Donc ce sont des vœux pour 24 heures. Et donc, l'on dit que cette pratique est importante car c'est ce qui permet progressivement de s'habituer à ses vœux. Et au bout d'un certain temps, ou certaines expériences dans ces vœux, dans cette pratique, on sera capable de garder ses voeux de plus en plus longtemps et on sera finalement capable de les garder pour une vie entière ou même pour plus longtemps. Donc c'est une expérience qui est importante pour commencer de faire cette pratique de Sojong. Et donc, lorsque l'on prend ces huit vœux de base de Nyéné pour un jour et qu'on les prend jusqu'à la fin de sa vie, c'est grosso modo ce que l'on appelle les vœux de moine, les vœux de nonne. Il y a différentes. Donc une fois que l'on a pris, qu'on a une certaine habitude dans ces vœux de Sojong, l'on peut prendre ces vœux de moine. Il y a différents vœux de moine que l'on garde à ce moment-là pour une vie entière. Et bon, il y a différentes catégories de moines. Vous les connaissez, les novices, les moines, les Getsul, les Gelong, etc. Et pour les nonnes, pareil, différentes types de vœux de plus en plus développés. Et l'on pourrait définir donc et résumer l'attitude des Shravakas dans ses vœux. En résumé, on pourrait dire que c'est avec le corps et la parole, ne pas nuire à qui que ce soit, ne pas nuire à autrui. Donc c'est ça la définition ou l'idée générale qui soutient ces vœux. Et une fois que l'on a une certaine expérience, donc dans cette base de Shravaka, on peut générer ce que l'on appelle la bodhicitta, l'esprit de l'éveil. Pour ce faire, il faut méditer sur l'amour et la compassion. Et c'est ce qu'on appelle donc la voie du Mahayana, qui est le deuxième type de conduite ou d'action, qui est l'action du bodhisattva, avec la motivation d'établir, de libérer tous les êtres. Est-ce que on peut dire en résumé que comment qu'est-ce que l'attitude ou la conduite du Mahayana? C'est l'attitude ou la conduite qui est motivée par la compassion. Donc c'est une attitude de compassion. Et enfin, au niveau du Vajrayana, lorsque le niveau de l'action ou de la conduite, c'est ce que l'on appelle la conduite lorsque l'on reçoit une initiation.
Et
donc, pour résumer, on pourrait dire que la conduite selon le Vajrayana, c'est la vision de la pureté universelle de tous les phénomènes, ou encore c'est l'attitude de parfaite équanimité ou la conduite de l'équanime en toutes circonstances. Et en fait, il faudrait rentrer dans tous les détails, car dans le Vajrayana, il y a différents niveaux de tantra, et chacun niveau de tantra, à chaque niveau de tantra correspond une attitude, une conduite particulière, ce qu'on appelle le kriya, le upa, le yoga ou le anuttara. Donc il y a différentes sortes de tantra, et à chacun correspond une attitude particulière. Mais en résumé, ces deux points de vue sont la base du Vajrayana, la base de la conduite du Vajrayana, c'est la conduite de l'équanimité et la conduite de la pureté universelle. Et en fait, cette pureté universelle et cette équanimité seront maîtrisées parfaitement, uniquement dans le Anuttara Tantra, dans le Tantra le plus haut, l'insurpassable Tantra. Si l'on essaie de détailler plus, dans le premier niveau de Tantra, qui est le Kriya Tantra, c'est-à-dire l'action, dans ce premier niveau, l'attitude ou la conduite est une attitude de pureté qui est très proche de la conduite des brahmines de l'Inde, c'est-à-dire une attitude où on fait énormément d'ablutions, une attitude extérieure et qui est très fortement basée sur la pureté du corps, la pureté de la parole et qui est en fait très proche de l'attitude et des règles des brahmines de l'Inde. Et dans cette attitude des brahmines, Rinpoche parle de l'attitude des brahmines et de leur façon de voir dans les cinq castes de l'Inde, enfin disons les quatre castes principales de l'Inde. Les brahmines sont de la caste supérieure et ils considèrent qu'ils sont la caste pure, la caste parfaite, et qu'ils ne peuvent pas avoir de contact avec les autres castes, de contact physique qui souillerait leur appartenance à leur caste de brahmines. Et c'est pour ça que toute leur attitude est basée sur cette pureté de la caste, cette pureté de naissance qui les rend supérieurs aux autres castes. Et donc toute leur attitude est basée sur le fait d'ablution, de purification, de rituel de pureté, etc. Ils se changent de vêtements plusieurs fois par jour, ils se lavent plusieurs fois par jour, etc. Tout ceci est basé donc sur cette pureté. Et ils ont l'impression que s'ils ne faisaient pas ces rituels, ils retomberaient dans des castes inférieures. Et l'idée qui est derrière tout ça, c'est qu'il faut que l'on soit parfaitement pur pour pouvoir recevoir la divinité.
Et
de la même façon, par exemple, les brahmines n'iront jamais dans la maison de quelqu'un qui n'est pas de leur caste. Ils n'iront jamais chez des gens qui mangent du bœuf ou de la vache. Ils n'iront jamais dans la maison de caste inférieure, car ils ont l'impression que leur appartenance à leur caste va être souillée par le fait même d'aller chez quelqu'un d'une caste
inférieure.
Et de la même façon, au niveau des divinités, lorsque l'on pratique ce tantra de l'action, ce kriya tantra, l'on doit purifier entièrement sa maison, son autel, faire des offrandes parfaitement pures, avoir des petits bâtons d'encens, de la lumière, tout ça doit être parfait et dans une pureté parfaite, car si notre autel est sale ou si la divinité est impure ou notre représentation est sale, etc., ceci souille la divinité elle-même et le but même de ce type de tantra ne peut pas être effectif. Donc l'effectivité de ces pratiques est basée sur l'effectivité des rituels de pureté et de purification. Et donc, dans ce genre de rituel, par exemple, il est formellement interdit de manger de la viande, il est formellement interdit de boire du sang et toutes sortes de choses comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est manger du yaourt, manger de la farine, des petites herbes, des choses bien propres. Et donc tout ce genre de rituels un peu sauvages sont parfaitement interdits, justement comme le fait de manger de la viande, par exemple. Et toutes les sortes d'autres petites bêtes sont interdites aussi. De manger des petites bêtes telles que des crevettes, des brochets, tout ça, enfin, celles qui ont des pattes, celles qui n'ont pas de pattes, enfin, toutes celles que vous voulez, les huîtres, les moules, enfin, bon, bref, tout ce genre de nourriture sont interdites. Et donc dans cette approche et dans ce genre d'approche donc il faut donc dans ce genre d'approche il faut par exemple se laver 3 fois par jour, changer de vêtements 3 fois par jour. Rinpoche dit qu'il pense que c'est une pratique tout à fait appropriée pour l'Europe avec toutes les salles de bain qu'il y a partout. Il pense que c'est pas très difficile de faire cette pratique ici. Et parce que par exemple si notre corps n'est pas parfaitement lavé, parfaitement pur, les odeurs du corps peuvent gêner la divinité, et une fois que la divinité est gênée, l'effectivité de la pratique ne marche plus, c'est-à-dire que la pratique n'est plus effective, hein. C'est-à-dire que tout est basé sur la pureté, sur les bonnes odeurs, sur les petites fleurs, l'encens, etc. Et à partir du moment où on ne se soumet pas à cette règle, cette pratique de yoga, de tantra, n'est plus effective, vu qu'elle est basée sur la pureté. Et on pourrait dire par exemple que la pratique de Nyine, Dans la pratique de Nyune, par exemple, c'est une pratique de type de ce tantra, hein, le tantra de l'action. La pratique de Nyune, qui est la pratique sur Chenrezi pendant deux jours, avec jeûne, etc., c'est une pratique de type de tantra, kriya tantra. Oui, il y a un petit problème sur les traductions des tantras. Tu vas voir, kriya, ou pas. C'est comment les
upa? Upa
is not
here. Upa is. So what is the second one?
It's kriya, sharya, and then it is.
Sharya?
Yoga, and then it's anatta.
Upa is in between. Wait, what is the second one?
Charya.
Donc le deuxième type de tantra, c'est ce qu'on appelle le charya tantra. Et dans cette approche, l'accent est mis principalement sur le yoga de la divinité, sur la pratique de la divinité. Dans le troisième type de tantra, qui est le yoga tantra, l'accent est mis, il n'y a plus du tout cette approche de pureté, de purification, d'ablution, etc. L'accent est mis uniquement sur l'absorption, sur le samadhi, et sur la puissance de la méditation, et sur le yoga de la divinité. Et enfin, donc, dans l'Anuttara Tantra, l'accent est mis principalement sur l'attitude de l'équanimité ou de la pureté universelle. Et donc si quelqu'un se base sur cette progression et fait effectivement cette progression, même s'il est de capacité moindre telle que l'on l'a défini tout à l'heure, il est évident qu'il parviendra au but. Et en suivant cette voie progressive, il parviendra à comprendre le point de vue philosophique, il parviendra à la réalisation de la méditation, et il parviendra à maîtriser la conduite. Donc il parviendra à maîtriser ses plus hauts niveaux de tantra. Et un autre aspect du Vajrayana dont Rinpoche voudrait parler ce soir, qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle les trois racines. La racine de l'influence spirituelle, qui est le lama. La racine de... Zinab Gitsawa dans... La source ou la racine des accomplissements des siddhis, que sont les yidam, et enfin la source ou la racine de l'activité, que sont les protecteurs et les dakini. Et donc, dans le Vajrayana, il est dit que le lama réunit en lui-même les qualités du Bouddha, du Dharma et du Sangha. Il réunit totalement les trois joyaux, les trois refuges. Il est Bouddha, Dharma, Sangha.
Et lama la ra le pan tu gobe na ni sinab je sava lama re.
Et dans le Vajrayana, l'influence spirituelle est essentielle, l'influence spirituelle ou la bénédiction, cette bénédiction qui est le fruit de la lignée, de la transmission, est une des sources donc, du Vajrayana, de la réalisation du Vajrayana, c'est cette transmission. Et donc le Lama, qui est l'union du Bouddha Dharma Sangha, l'union des trois refuges, est la source de cette influence spirituelle, de cette bénédiction. Et pourquoi, comment peut-on dire que le lama donc est la source de l'influence spirituelle? C'est que dans le Vajrayana, comme dans toutes les pratiques bouddhistes, le but c'est de réaliser ce que l'on appelle Tathagata Garbha, c'est-à-dire la nature de Bouddha qui est en nous. Et pour réaliser, pour actualiser cette nature de Bouddha qui est présente en nous, car donc on ne peut pas actualiser cette nature de Bouddha, ce Tathagata Garbha, si l'on n'a pas l'influence spirituelle du Lama. On ne peut pas réaliser cette nature de Bouddha uniquement par la compréhension, uniquement par la méditation, seul, ce n'est pas possible. Il faut s'en remettre à un Lama, c'est ce qu'on appelle la bénédiction du Lama. Et si vous voulez comprendre comment fonctionne cette influence spirituelle du lama, il vous faut lire la... Si vous voulez comprendre cette puissance et cette importance de l'influence spirituelle du lama, il vous faut lire souvent la vie de Milarepa. Et dans la vie de Milarepa, en la relisant tant et plus, vous aurez ainsi vraiment la compréhension et l'expérience de ce qu'est véritablement la bénédiction du Lama. Ainsi donc, il est excessivement important pour tous les bons disciples qui ont envie de pratiquer le Vajrayana, de lire tant et plus la vie de Milarepa. Et donc, la deuxième source, la deuxième racine du Vajrayana, c'est ce que l'on a appelé la racine des siddhis, des pouvoirs. Et ces pouvoirs sont doubles. Il y a ce qu'on appelle les siddhis ordinaires et les siddhis extraordinaires. Et les yidams, la pratique d'une divinité, d'un yidam, d'une divinité tutélaire, est la source donc de la réalisation de ces siddhis. On peut dire que les siddhis ordinaires sont les siddhis qui sont les pouvoirs en cette vie même, les pouvoirs de cette vie même, les pouvoirs supranormaux en cette vie même. Et les siddhis extraordinaires, ce n'est autre que la réalisation de l'état de Bouddha. Et lorsque l'on médite sur le yidam, quelle est la réalité du yidam? Il est l'union de la vacuité et des apparences. Il est semblable à un arc-en-ciel. Sa réalité est semblable à un arc-en-ciel. Il n'a pas de solidité, il n'a pas de composants réel, il est l'union donc de la vacuité et de la et des apparences.
Gartien, Martier, Parquet de Kiamatom, Parquet de Wang de Dobre. Tenen garche parche khebar sepa la, tenen yinjin meje chujong gogo yore, chujong ten chodze chobare.
Et enfin, la troisième racine, la troisième source du Vajrayana, ce sont les protecteurs. Et quelle est l'action de ces protecteurs? C'est ce qu'on appelle l'activité. Car les protecteurs sont ceux qui coupent les obstacles. Et si l'on ne coupe pas, si l'on ne détruit pas les obstacles à la pratique, il est impossible de parvenir au but. Et donc les protecteurs sont justement, comme leur nom l'indique, ceux qui protègent des obstacles sur la voie du Vajrayana. Et c'est ainsi que lorsque vous assistez au puja de Mahakala, comme ces jours-ci, la chose importante comme attitude, c'est d'avoir une attitude de faire des souhaits pour que tous nos obstacles soient purifiés. Donc c'est cette attitude de prière, si vous voulez, d'invocation de ces protecteurs pour couper tous les obstacles. Et il y a etc. Mais ceci n'a pas d'intérêt pour l'instant. Ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir l'attitude de compréhension, de savoir que les protecteurs sont ceux qui nous protègent, qui coupent tous les obstacles de la pratique, malgré la diversité et la variété de leurs apparences. Il faut avoir une confiance profonde et solide dans l'effectivité de leurs moyens pour couper ces obstacles. Et ce qui est important, donc, c'est une fois encore cette confiance dans ces protecteurs, savoir qu'ils sont les protecteurs de la doctrine du Bouddha, du bouddhisme, et en ce sens-là, donc, développer de la confiance en eux. Et en général, ces protecteurs, ce sont des aspects de force très puissantes qui ont été subjugués ou transmutés par le Bouddha historique, bien sûr, et par les Bouddhas en général, et par les différents grands maîtres du passé, les grands yogis du passé, qui ont subjugué ces forces et qui les ont fait promettre de servir la doctrine. Et donc ils sont liés par ce serment d'allégeance qu'ils ont prêté, soit au Bouddha, soit à Guru Rinpoche, soit au grand maître, au grand yogi du passé. Et donc, quand l'on fait tous ces rituels pour ces différents protecteurs, ce qui est important pour nous, c'est de penser que l'on invite donc ces protecteurs en leur disant, vous tous qui avez promis devant les grands saints du passé, devant le Bouddha lui-même, qui avait promis, qui avait fait ce serment d'allégeance et qui avait été, qui est lié par votre promesse, gardez votre serment vivant. Et pour que vous gardiez ce serment vivant, ce serment de protéger la doctrine du Bouddha, nous vous faisons ces différentes offrandes de dharma, ces offrandes de nourriture, etc. Toutes ces offrandes sont faites pour satisfaire ces protecteurs et pour leur rappeler leur devoir, si l'on peut dire, ce serment de protéger la doctrine qu'ils ont fait. Donc c'est en fait ça le sens générale des différents pujas de Mahakala, de ces différents rituels au protecteur. Et donc, les différentes choses qui sont posées sur l'autel, la disposition de l'autel, telles que les tormas, les offrandes, etc., tout ceci, ce sont des supports de manteau, des supports de concentration. L'on met, par exemple, sur l'autel une orange et l'on pense que, mentalement, que l'on offre des milliards d'oranges et toutes les oranges que peuvent contenir l'univers, etc. Toutes ces offrandes que l'on multiplie à l'infini mentalement. Donc, en fait, ces supports sont parfois donc les supports de la divinité elle-même, et à la fois ils sont des supports d'offrande. En offrant une, ceci est le support de méditation qui nous permet de visualiser que l'on offre des offrandes à l'infini à ces différentes divinités. Donc Rinpoche dit que ce genre de rituel a en fait deux effets. Il y a d'abord l'effet de rappeler à ses protecteurs les promesses qu'ils ont faites dans le passé, de rappeler leurs vœux et leurs serments du passé, et d'autre part, par les différentes offrandes et par l'invocation que nous faisons, en invoquant ces protecteurs, on pourrait dire qu'on les réveille en leur disant vous avez promis dans le passé de protéger la doctrine, et maintenant, par ces offrandes, veuillez venir. C'est vraiment une invocation de leur montrer l'urgence de leur travail en disant en fait, faites votre boulot, quoi. C'est-à-dire que on les invoque pour que ils soient véritablement présents et que leur activité se manifeste ici et maintenant véritablement. Donc pour reprendre ces trois racines, ces trois sources, on pourrait dire que le lama est comme le roi d'un pays, que le yidam est comme les princes ou comme les ministres, comme un ministre, et on pourrait dire que les protecteurs sont comme les armées qui protègent les frontières. Et en fait, ils ont chacun leur importance. On peut dire effectivement que le roi est le plus important hiérarchiquement, mais si le roi est seul et qu'il n'a pas ses armées, son pays risque d'être envahi par les forces négatives et les ennemis. Donc il a besoin de ces trois niveaux. Il a besoin de ces trois niveaux pour que le pays soit protégé, gouverné et qu'il fonctionne bien. Donc c'est pour ça que Rinpoche vous demande donc de bien faire ces rituels de Mahakala, d'y mettre toute votre confiance et de votre énergie pour invoquer ces forces protectrices qui sont très importantes pour la doctrine du Bouddha. Et lorsque l'on est débutant, lorsque l'on n'a pas reçu d'enseignement sur Mahakala ou sur les protecteurs, il n'est pas nécessaire d'essayer de les visualiser. Ce qui est important, c'est de penser qu'en face de soi, dans l'espace, sont présents les lamas, les yidams et les protecteurs. Même si on n'en connaît pas toutes les caractéristiques, on pense qu'ils sont là. Et l'on fait mentalement les différentes offrandes, etc., les différentes invocations, mentalement, en leur demandant de protéger la doctrine. Et c'est ça qui est important, c'est cette attitude mentale qui est nécessaire pour les débutants. Il n'est pas nécessaire d'essayer de faire toutes les visualisations, etc. Ce qui est le plus important dans la pratique, en particulier dans les rituels vis-à-vis des protecteurs, c'est la foi et la confiance dans la puissance de leur activité et dans l'effectivité de leur activité. Quant à savoir ce qu'ils portent dans la main gauche, ce qu'ils ont dans le kapala, si c'est du vin ou si c'est de l'eau ou si c'est du sang ou quoi, etc. Ce genre de choses, ça n'a aucune importance pour vous, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la foi et la dévotion et la confiance dans cette activité protectrice.
Et non, tandis que Chusong, Dunba Kapsu Chirang So, Dunja Nangka Lama, Teo De Yedam, Tene Chuchong Soma Tamji, Tene Trikpa Yindo, Yopar Mipa Sete, Tene Chuchi Sanji Machapa Por, Tene Zeji Chuchi Sanji Machapa Por, Tene Sanji Jitemba Zongan Zedo So, Dakya Nanji Chuchu Pankarjian Pache Tamji Kewan Zedo So, Sena, Ote Ndegendo.
Et donc, Rinpoche dit, on pourrait en fait résumer le Puja de Mahakala, c'est en fait ça qu'il vous demande de faire pendant ces pujas. C'est donc de penser qu'en face de vous, dans l'espace, se tient le lama. En dessous du lama, il y a tous les yidams. En face des yidams, il y a tous les protecteurs. Et il faut juste penser donc que l'on offre de plus profond de soi-même toutes ces substances qui sont multipliées à l'infini, que l'on multiplie mentalement en pensant que l'on fait des offrandes incommensurables qui remplissent tout l'espace, et en demandant aux lamas, aux yidams et aux protecteurs de garder leur activité, et particulièrement aux protecteurs de garder cette activité protectrice pour la doctrine, et avoir ceci très présent à l'esprit de façon très, très profonde, très présente. Ouais. Et c'est ceci qui est important, c'est ça le puja de les rituels de Mahakala. Donc nous allons méditer quelques instants.
Lama yedang chuchong ge cho nam tene ten te pam ten te ba yin dong ngoy sum du yo par sam de tene te pat che chek to se te nyam ka.
Et donc l'on pense que en face de soi dans l'espace se tiennent tous les lamas, les yidams et les protecteurs qu'ils s'assemblent comme des nuages et qu'ils remplissent tout l'espace. En les gardant présents à l'esprit, en étant parfaitement concentré sur cette image, sur cette visualisation, l'on demeure absorbé dans cette pensée, dans cette visualisation. Et il est par exemple de faire la pratique que l'on qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire visualiser les lamas, etc. C'est aussi une pratique de Shiné, c'est aussi une pratique de l'Aktong. Comme on l'a vu dans la pratique de Shiné, il y a la pratique avec support. Et on a dit qu'il était possible de méditer sur le corps du Bouddha, par exemple. Donc ici, c'est la même chose, méditer sur le lama ou sur le yidam ou sur le protecteur. C'est la même chose, c'est ce qu'on appelle une pratique de Shiné avec support.
Tena tangbo tene lama, jupe lama nam, dorjen jane zonde jupe lama nam.
Donc tout d'abord, l'on médite sur tous les lamas de la lignée à partir de Vajradhara, de Dorje Chang, jusqu'au lama actuel.
Yana jupe lama tsorere yendo gom matom nayan, lama tamje jek de deux de Dorje Chang.
Et l'on peut soit visualiser tous les lamas de la lignée ou les principaux jusqu'à nos jours. On peut aussi, si l'on ne les connaît pas bien, on peut aussi tout simplement penser que Vajradhara dans Dorje Chang est l'union de tous les lamas de la lignée et penser qu'ils sont indifférenciés. Et donc méditer ainsi sur le corps du lama comme étant l'union de Vajradhara, de Dorje Chang, c'est ce que l'on pourrait appeler la méditation de Shamatha, de la pacification de l'esprit, qui a pour objet le lama. Et si l'on n'arrive pas dès le départ à visualiser le lama sous la forme de Vajradhara, de Dorje Chang, il est possible de couper la visualisation en partie, de méditer tout d'abord sur les caractéristiques de la tête de Dorje Chang, de tous les attributs de sa tête, puis de son bras droit, de son bras gauche, etc. Et progressivement, l'on réunit toutes ces parties ensemble jusqu'à ce que la visualisation devienne stable.
Ça va, Yedam. Dorje Pamo, Kolo Demjo, Tujan Kolo, Hembeta La Sopa.
Et en dessous du lama se tiennent tous les yidam, les divinités tutélaires. Ces divinités sont Dorje Parmo, Evajra, Kalachakra, Kalodemchok. Et ce sont toutes les divinités pour lesquelles nous avons reçu des initiations. Elles entourent donc le trône du lama en dessous. Elles sont toutes présentes.
Maïkina, Dorje Pamuntava Yedam, Tchek Gonde Yedam Tamte, Kundusu Mute, Gomnayan, Yedam Kundusu Gomba.
Et là encore, si l'on n'est pas capable de, si l'on ne sait pas méditer sur les différentes divinités, les différents yidam, l'on peut penser que Dorje Pamo est l'union de tous les yidam, et l'on médite uniquement sur Dorje Pamo, en pensant qu'elle réunit toutes les autres aspects des divinités.
Then chepar do ranka wang to be yedan tam che chik dun du gong over gom goyer. Te gom na, teni sanga ka tam chik dun tum pare. Karar sana wang hiwa kaap su yedan ten gom ka inza khe lang yore, gom matop na tam chik dun gaga yore, teni rere yendo gom ya yang kalika kore, te yindu, te dorje pamo chik tabo chik gom, te la tam chik dun par gom na, teni yabu yabu yore. Sanga ka tam chik khe lang dun tum yore.
Et par exemple, le fait de méditer sur un seul yidam est le moyen de préserver tous ces damtsik, tous ces samayas du Vajrayana. Lorsque l'on reçoit une initiation, l'on prend un samaya, l'on prend des vœux. Ces vœux sont de faire la pratique de telle ou telle divinité. Et lorsque l'on a reçu de nombreuses initiations, on a donc reçu de nombreux samayas. Et il est difficile de faire toutes ces pratiques, donc... Il faut penser que la pratique, par exemple, de Dorje Parmo, d'un yidam, réunit toutes les pratiques et que ce yidam réunit tous les autres yidams. De même, donc, la troisième source, c'est les protecteurs, qui sont la source de l'activité. Et il est difficile de connaître tous les protecteurs. Ce qui est important, c'est de méditer sur un, tel que Bernard Chen ou Shadrupa, et en pensant que celui-ci réunit tous les autres. Il est l'union indifférenciée de tous les autres. Puis finalement, les lamas, les yidams et les protecteurs se fondent, sont tous absorbés dans le lama, et enfin disparaissent dans la vacuité, et l'on reste dans cet état de non-conceptualisation. Non distinction entre la vacuité et les apparences.
Jena chuchong de sorka sorjon de baka so pechan don kiba nanje pechan don batang tinge den gobanyam do zo tene pechan me ba tu tene tinge pechan me na ya da ba mando ya na ya me pa kona gona tene tonje chue pa te dubayo ngre
tunchik
ton tambe.
Et donc, ainsi pendant ces pujas de Mahakala, ces rituels, ceux qui connaissent le texte, ceux qui l'ont, peuvent faire à la fois la récitation et la visualisation. Par contre, ceux qui n'ont pas le texte et qui ne le connaissent pas peuvent faire tout simplement la visualisation telle que nous venons de la faire, et tout en restant concentré sur cette visualisation. Ceci est le... Quel est le... Donc, en faisant ce type de visualisation, c'est ce qu'on appelle la pratique du sens, de la signification. C'est-à-dire qu'on médite directement sur le sens du rituel, même si on ne connaît pas les mots, on médite directement sur les divinités, sur les aspects. Et donc... Plutôt que de se tracasser lorsque l'on n'a pas de texte en se disant « ce serait tellement bien si je savais lire le texte, etc. » Il faut mieux utiliser ce temps pour bien méditer. Par contre, ceux qui ont le texte ne doivent pas s'en développer de la fierté ou de l'orgueil. Il faut mieux passer son temps à visualiser et à suivre les visualisations du texte.
Dedans là, zo. Mon grand-père,